Bonjour et bienvenue dans les hors-séries de Wine Challenge. Je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast. À l'occasion du printemps des champagnes, je vous invite à partager un voyage sonore au cœur des terroirs de chacun des membres de l'association des pieds et des vins. Imaginez-vous, entouré des vignes de champagne, baigné par un doux soleil printanier, et laissez-vous transporter dans chaque parcelle où les vignerons et vigneronnes de ce groupe vous ouvrent les portes de leur univers en partageant avec vous un souvenir qui leur est cher et une dégustation de vin clair. Ces vins sont le reflet de la dernière vendange, où chaque gorgée est une aventure sensorielle qui se révèle comme une histoire à déguster. Explorons donc sans plus attendre les secrets de leur terroir et la sensibilité qui ne demande qu'à s'exprimer dans chacun de ces futurs vins de champagne. Je vous propose de débuter le voyage du jour à Neuville-sur-Seine, afin de nous arrêter chez Anna et Raphaël Piconnet du domaine du Bicherie.
Des pieds des vins, j'y suis grâce à Thomas et Rémi. On est le Des pieds des vins Virage Sud, c'est comme ça qu'on s'appelle. Et quand ils nous ont proposé de rentrer à Des pieds des vins, c'était un truc qu'on n'espérait même pas en fait. C'est quelque chose qui a énormément compté pour nous et qui nous a énormément marqué en tant que vignerons. Et on est en train de vous préparer un très très beau printemps des champagnes avec deux petits nouveaux que vous aurez sûrement du mal à reconnaître parmi tout le groupe parce qu'ils sont déjà bien à l'aise et ça va être super. Et en plus, on vous réserve un bel endroit de dégustation avec des vins clairs de 2023 qui vont être super chouettes à déguster et puis des cuvées de champagne qu'on voit. Donc on se réjouit de vous voir au printemps des champagnes. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour déguster un vin clair de 2023 issu de la parcelle de Val-du-Clos. Val-du-Clos, c'est une parcelle qui est située à Neuville. Sur un coteau, donc avec le soleil qui arrive très tôt le matin, c'est une de nos parcelles les plus raides. C'est Anna qui a choisi le vin clair qu'on allait déguster aujourd'hui. Val-du-Clos a un affect quand même particulier. C'est une des vignes les plus raides qu'on ait, donc c'est une des plus dures à travailler. Moi, j'aime toujours ce côté assez challenge dans le travail, où plus tu donnes, plus il y a de chances que la vigne, elle te rende. Et donc ça, c'est toujours une vigne qui m'a beaucoup plu, pour ce côté exigeant. Et elle me plaît aussi beaucoup parce que c'est une complantation de pinot noir et de chardonnay fait par mon grand-père et mon papa. Et c'est juste le bon sens paysan qui leur a fait planter les pinots noirs en bas et les chardonnays en haut pour la lutte contre le gel. Donc de la lutte qui coûte aucune énergie, qui est juste du bon sens. Et ça, j'adore ça. Juste ce côté bon sens paysan. Parce qu'en plus, la partie du bas de pinot noir, c'est une comparaison entre la sélection massale de mon grand-père et des clones du CIVC. Donc mon grand-père qui n'a pas fait d'études d'un côté et qui a toujours travaillé aux vignes, et des gens du CIVC qui ont que fait des études mais qui n'ont jamais travaillé aux vignes. Et à la fin, il n'y a jamais eu de différence significative en faveur des clones. La massale de mon grand-père, elle a toujours été au niveau, et ça, je trouve ça juste génial. Donc, pinot noir chardonnay, là, dans ce qu'on va goûter, donc 2023, en fait, on ne voulait pas séparer en cave ce qui était ensemble à la vigne. Donc, on récolte tout ensemble. On fait attendre un petit peu plus les pinots, qui forcément mûrissent plus vite que les chardonnays, donc on a des pinots qui sont plutôt en surmaturité, des chardonnays qui sont plutôt en légère sous-maturité. On essaye toujours de trouver le point d'équilibre entre les deux, ce qui nous donne à la fin un vin avec à peu près 70% de pinot et 30% de chardonnay. J'adore voir dans le pressoir les raisins noirs et les raisins blancs ensemble. J'adore ça, je trouve ça toujours très joli. Coteau, il y a 30-35% de pente, les pinots donc sont toujours largement mûrs, donc même s'il y a 30% de chardonnay, on a toujours un côté un peu teinté. Et donc là, ça a été prélevé sur un fût de 300 litres. On n'a quasiment pas de fût neuf, on n'a que des fûts qui ont déjà été utilisés par des amis, dans la majorité des cas. J'adore s'aimer toujours plutôt sur le pinot, très expressif, très exubérant. Vraiment, c'est des terroirs très chauds, la terre rouge. J'adore s'aimer vraiment sur le fruit rouge est un peu écrasé, vraiment bien mûr. Sur 2023, en plus, qui est un millésime où la maturité n'a absolument pas été un problème. Elle nous a fait très peur, ça mûrissait pas, et d'un coup ça a mûri, on est arrivé à des grosses maturités. Ça fait des nez du coup très alcooleux, mais aussi très disponibles. Donc 2023, vendange assez chaude. Nous on fait toujours à peu près la moitié en fût, la moitié en cuve, et ce qui va en fût, fermente en fût. On est tout en levure indigène. Hein. 2023, Sur certaines parcelles, on a mis presque 30% par terre, je dirais, à cause de pourriture, donc on a trié assez sévèrement. Ça n'empêche pas que sur certaines parcelles, on a mis un petit gramme au pressoir pour un peu s'assurer les fermentations ensuite en levure indigène. Et ensuite, donc là, on est sur lit total. Pas de bâtonnage, rien. Fermentation en fût. Les caves sont restées chaudes après les vendanges et les malos sont enchaînés, donc là, la malo est faite. Dès qu'on peut, on ne met pas du tout de soufre, donc elles s'enclenchent assez facilement. Elles sont des fois finies avant les FA, mais en tout cas, elles se font. Moi, je pense que si on a assemblé deux choses, le plus tôt on les assemble, le mieux c'est. Et surtout, si elles fermentent ensemble, ça donne vraiment une chose complètement différente que si on séparait les pinots et les chardins et on les assemblerait. Après la fermentation, ça serait un vin complètement différent. Là, le fait que ça fermente ensemble ces deux cépages, ça fait vraiment une liaison entre les deux qui est une osmose, vraiment. C'est pas deux cépages, c'est un vin. Ça fait vraiment une unité. Tout comme la fermentation en fût. Si ça fermente ensemble, c'est vraiment quelque chose qui va lier les éléments. Toujours cette attaque sur le pinot assez exubérant, et avec une finale qui va ressortir le chardonnay. Là, en pH, on doit être à 3,3, 3,4, des pH assez élevés, on doit être à presque 13 d'alcool, je pense. Et malgré ça, on a une finale assez saline, assez tendue, presque tranchante, assez fraîche. Et ça, c'est toujours des choses qu'on recherche sur nos vins, avoir ces finales plutôt aériennes, plutôt salines, qui vont vraiment presque faire saliver. J'adore ça.
Poursuivons désormais notre route vers Chamery et arrêtons-nous chez Thomas Perceval.
Donc j'ai choisi ce vin clair, une macération de pinot noir et chardonnay, issue d'une parcelle, la Masure. C'est sur Chamery, c'est une parcelle de 50 hectares qui est majoritairement plantée en pinot noir et complantée avec du chardonnay. Il y a à peu près 20% de chardonnay qui ont toujours été complantés dans la parcelle. Et donc j'aime bien cette idée d'assemblage à la parcelle, puisque je travaille quand même pas mal en parcellaire. Donc là on est au niveau du village, en termes de sol sur des argilo-calcaires, argilo-sableux, c'est un peu une parcelle qui est transitoire entre les bas de coteaux qui vont être sable-limon, et puis les mi-coteaux et même hauts de coteaux qui sont plus sur l'argile. J'ai pas une grosse attirance sur des macérations très longues, donc là c'est macéré 24 heures, les pinots noirs et les chardonnays ensemble, pour avoir juste une infusion en fait. J'ai jamais une couleur qui est très prononcée. On n'est pas sur le côté très vineux d'un rosé, pour garder un peu le côté champenois, un peu sur la fraîcheur, et pas être sur le côté trop vineux, quoi. Ouais. On passe plusieurs fois en fait dans la parcelle, je fais plusieurs macérations à plusieurs jours d'intervalle. Donc on passe une première fois dans la parcelle, prendre les grappes les plus mûres, que ce soit en chardonnay ou pinot noir. On laisse ce qui est moins mûr, on revient deux jours après, on reprend les grappes qui ont mûri. L'idée c'est que ce soit vraiment bien mûr et macération courte, toujours pour avoir le côté fruit bien présent, et puis macération courte pour garder cette finesse dans le vin. 2023, saison pas si simple que ça, parce qu'il y avait quand même une petite pression mildiou. Par contre, on a une très belle floraison, peut-être trop belle. Les grappes ont extrêmement bien fleuri et du coup, ça faisait des grosses grappes. Quelques petits soucis de grains piqués dans les vignes à la vendange, qui m'a stressé un peu. Hein. En 2014, on a eu un peu ça. 2017, on a eu un peu ça. Et 2023, c'était quand même beaucoup plus important. Et la sensation que j'ai, c'est qu'au final, je trouve que les vins s'en sortent très bien par rapport à l'état d'esprit qu'on pouvait avoir au vendange, un peu stressé par rapport à ça. Voilà, donc en fait, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que tant qu'on n'est pas arrivé au bout de la saison, il y a la saison viticole, et quand on vinifie derrière, on peut avoir une espèce d'insatisfaction en fait quand on arrive à la vendange et qu'on voit des raisins qui sont pas ce qu'on souhaitait. Et quand on vinifie derrière et puis qu'on a cette espèce d'aboutissement sur les vins, on reste pas sur cette vision de la vendange où c'était compliqué, parce qu'on a les vins qui sont dans la cave et qu'on peut les goûter au fur et à mesure et qu'on se dit, bah oui, finalement, on a la chance d'avoir cette continuité quand on transforme un produit. On a la chance d'avoir cette continuité et de voir que finalement ça se passe bien, quoi. Hâte de retrouver les copains à des pieds des vins pour toujours partager ce moment entre nous qui est un moment de joie. Bon printemps à tous.
je vous propose à présent de reprendre la route en direction de Mareuil-sur-Aï, afin d'y retrouver Antoine Bouvet.
J'ai intégré le groupe des Pieds des Vins depuis quelques mois, donc je suis très heureux parce que c'est un groupe qui, je pense, me correspond le plus. Il y a une super dynamique, c'est vraiment un groupe qui est très dynamique, on s'entend tous très bien, on est plus des potes qu'autre chose, quoi. Et du coup, c'est tout se fait très simplement, humblement et toujours avec une belle énergie, une envie d'avancer tous ensemble et surtout d'avancer correctement, quoi, faire de bonnes choses le plus juste possible, quoi. Donc j'ai très hâte de vous rencontrer pour ma première participation au Printemps de Champagne qui se déroulera à Reims. Donc aujourd'hui, j'ai choisi une parcelle de vigne qui s'appelle Les Rochefort, donc qui se situe à Bisseuil. Et j'ai choisi ce vin parce que, en fait, ça a un lien aussi avec des pieds des vins, parce que cette parcelle, il y a une petite dizaine d'années, je m'y suis retrouvé. Et puis, mon voisin est Étienne Calsac. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés avec Étienne, parce qu'on est voisins, et puis on a discuté, et puis on s'est bien entendu. Et je trouvais ça sympa d'amener aujourd'hui. Donc c'est les Rochefort, on est sur Bisseuil. C'est un terroir qui est assez joli, pas encore trop mis en avant. Bisseuil, on est sur de la craie, il y a très peu de sol, on est plein sud. Donc c'est plutôt un secteur qui est assez solaire, où on récolte toujours des raisins très mûrs, assez précoces. Donc là, sur 2023, c'est des vins qu'on a récoltés à 12 degrés d'alcool potentiel, donc sur les chardonnays. 2023, c'est une année un peu spéciale par rapport aux dernières années, personnellement, je trouve, parce qu'on retrouve un peu des millésimes plutôt de l'époque de mes grands-parents, où on n'a pas une maturité qui est excessive, mais en fait, les vins sont quand même très bien équilibrés. Donc là, bien sûr, sur le chardonnay, on est à 12 degrés potentiel, donc on a une belle maturité, mais sur l'ensemble du domaine et de la Champagne, on est quand même sur des degrés un peu plus faibles. Donc voilà, sur Rochefort, on retrouve tout de suite quand même ce côté un peu solaire, parce que au nez, on va retrouver les aromatiques de Chardonnay qui sont assez mûres, quoi, bien mûres même. On a déjà de jolis équilibres sur le vin. On retrouve bien le côté crayeux. C'est ce que j'aime sur Bisseuil, c'est ce côté, on a très peu de sol, vraiment sur de la craie, et ce côté solaire plein sud, en fait, on a un équilibre qui se fait naturellement, quoi. On a toute la maturité du vin, mais derrière, on a la craie qui vient gagner en tension et équilibrer le tout, quoi. Après, pour revenir sur 2023, on a eu plutôt une saison que je trouve assez bien équilibrée par rapport aux saisons, quoi. On a eu du beau temps, la fleur s'est bien déroulée, on avait une belle montre, donc ça veut dire que la vigne a produit quand même une belle quantité de raisins. Il y a juste eu une période un peu plus compliquée, c'est vraiment les 15-20 jours avant la vendange, où il y a eu de fortes chaleurs avec beaucoup d'humidité. Ce qui a fait qu'on a commencé à avoir un peu de botrytis se retrouver surtout dans les cépages noirs, donc Pinot Noir et Meunier. Et on a commencé à vendanger un peu après le 15 septembre, donc après les fortes chaleurs, ce qui était plutôt agréable pour tout le monde. Et du coup, c'est un millésime, on a fait quand même pas mal de tri dans tout ce qui est cépage noir. Mais je trouve que c'est un millésime qui est très prometteur, mais qui va demander quand même un petit peu de temps pour vraiment s'équilibrer au plus juste.
Enfin, terminons ce voyage aux côtés de Sébastien Mouzon et rendons-nous à Verzy.
Donc au niveau de la dégustation du vin clair, c'est un 100% Verzy, mais comme tout ce que j'unifie aujourd'hui. À Verzy, on exposait Nord-Est et avec le réchauffement climatique, mine de rien, aujourd'hui, c'est pas déconnant. À Verzy, on avait la réputation avant de faire des vins un petit peu sévères. Et aujourd'hui, on se trouve avec un très beau volume en entrée de bouche de manière générale et toujours avec des fins de bouche très tendues grâce à cette exposition-là. mais aussi grâce au calcaire, au silex qu'on a sur notre terroir. J'ai choisi une parcelle qui s'appelle les Fervins. C'est l'une des premières parcelles familiales. On est vigneron depuis 1776. Donc ça, c'est des parcelles que mes ancêtres ont toujours travaillées. Et aujourd'hui, c'était la première parcelle où j'ai fait de l'agroforesterie, où j'ai replanté des arbres, du thym origan, etc. Et il y a également les 7 cépages. Donc c'est une parcelle qui fait une petite cinquantaine d'arbres. Et c'est pas en complantation, c'est des rangs entiers qui ont été plantés sur des sélections massales. Donc pinot noir, meunier, chardonnay, petit mélier, arbane, pinot blanc, pinot gris. Je vendange tout la même journée et je fais du copressurage, cofermentation avec tous les cépages, mais à proportion identique. C'est-à-dire qu'il y a pile poil un septième de chaque cépage. En termes de dégustation, on est tout de suite sur déjà un nez ouvert où le pinot gris va amener cette patine d'ouverture. En entrée de bouche, on sent tout de suite qu'on va être sur la minéralité d'une fraîcheur qui arrive, qui va amener le vin du début à la fin. Entrée de bouche, très gras. Ça, c'est grâce à des maturités de raisins qui sont toujours cueillies de manière optimale. Et ce qui est intéressant là, avec ces 7 cépages-là, c'est que tous les cépages se mélangent en bouche, ça fait comme une sphère, hein, et tous les cépages se renvoient la balle comme le ping-pong, ça déborde pas, tout est bien à l'intérieur de ce rond. Et après, il y a une fin de bouche qui est très 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 longue, le calcaire à peu près 1m50 ici, donc les racines vont venir titiller un petit peu cette craie, prendre la minéralité, et il y a aussi c'est une parcelle où il y a pas mal de silex, donc tout est fait pour avoir une belle longueur en bouche et de la précision. Alors ce qui est drôle avec des pieds des vins, c'est quand on fait une grosse dégustation au moment des printemps du champagne, on se retrouve régulièrement dans l'année de droite et de gauche pour des réunions, pour faire des restos. On a déjà fait des dégustations sur Paris, en Allemagne. Et forcément, il y a toujours des conneries qui arrivent. Et ça me fait penser à mon pote Aurélien Lurquin, qui, on part d'une dégustation de Paris, devait partir faire une dégustation. Mais pour lui, on l'a rencontré, il me semble que c'était dans le Jura. Et il s'est rendu compte que son billet de train était pour le lendemain. Et ça, c'est typique de notre groupe. Il y a toujours un truc drôle, anecdotique, qui arrive à chaque coup. Après, pendant le printemps, il y a beaucoup, beaucoup de visiteurs. Mais ça n'empêche, il y a toujours une belle énergie positive. Les gens sont joyeux. Il y a un très beau dynamisme. Convivialité, joie, je crois que c'est des synonymes qu'on peut retenir. Bon printemps des champagnes à tous.
Avant de conclure, je profite du fait que Sébastien vienne de mentionner Aurélien Lurquin pour vous souhaiter un très bon printemps des champagnes de sa part. Il n'a malheureusement pas pu se joindre à nous lors des enregistrements, mais il se fait un plaisir de vous retrouver ce lundi, entouré de l'ensemble des membres du groupe Des Pieds et des Vins. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait vigneron, et d'ici là, je compte sur vous pour partager ces épisodes autour de vous. Très bon printemps à toutes et à tous, et à très vite.